Les actualités via 95 FM.
Bon week-end à tous, ici Mark Bryson et voici le résumé des actualités de la dernière semaine. La Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec est craintive de voir des entreprises de la région fermées à la suite de l'abandon du programme de l'expérience québécoise. C'est ce qu'a reconnu sa directrice, Méranie Roy.
Ça vient créer une énorme instabilité chez eux que, tu sais, ils doivent refuser des contrats, ils doivent diminuer leur production, donc diminuer leurs revenus. Fait que, tu sais, au final, là, c'est un impact sur notre économie locale, notre économie régionale, puis finalement notre économie nationale. Là, on dirait que les gens plus hauts au gouvernement, ça se rend pas compte, là, de tout ça, là. Ça va avoir des effets vraiment effroyables. Puis oui, ça va engendrer d'autres fermetures d'entreprises.
Méranie Roy espère que les élus gouvernementaux puissent redonner une sécurité aux entreprises.
Là, la priorité, clairement, là, c'est de permettre aux gens qui sont déjà ici, qui sont déjà intégrés, qui ont des travails, qui font partie de notre communauté, de notre société, doivent pouvoir rester s'ils en ont le désir, là, clairement. Puis, automatiquement, on va redonner une sécurité à nos entreprises. Donc, on va se sécuriser notre économie parce que là, tu sais, on s'en va vers complètement une insécurité, là.
Dans les derniers jours, les préfets Mario Lyonnais et Geneviève Dubois ont également dénoncé les dernières décisions du gouvernement dans cet épineux dossier. À cela, il faut ajouter que le Moulin Michel de Gentilly a dû réduire ses heures d'ouverture pendant 3 mois en raison du départ forcé de 2 employés qui dépendaient du PEC. Aussi, la poissonnerie Simère de Bécancour a lancé un cri du cœur alors qu'elle perdrait 23 de ses 65 employés qui sont des travailleurs étrangers. La municipalité de Saint-Léonard-d'Aston est en attente d'une approbation de subvention de Québec pour la construction d'une nouvelle usine d'eau potable. Il s'agit du programme d'infrastructure municipale d'eau qui vise la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eau usée. Le maire, Laurent Marcotte, a énuméré les idées qui sont sur la planche à dessin de ce projet qui est évalué à près de 16 millions de dollars.
Les deux stations fonctionnent toujours. Là, le but, c'est d'en faire une plus grosse, puis l'autre sera sûrement condamnée ou on va se servir du puits pour alimenter notre eau de puits là, pour ne pas perdre cette eau-là, la capacité en eau. Là. Il reste à ça à valider, mais le but, c'est de faire une plus grosse station d'eau potable pour desservir tout le village.
Si la subvention est accordée, le maire souhaiterait voir les travaux commencer en 2027 ou en 2028. On rappelle que lors de la dernière année, la municipalité a travaillé sur le nouveau bâtiment qui regroupe la nouvelle caserne ainsi que le garage des travaux publics. Ce projet était évalué à 9,5 millions de dollars, dont 7 millions provenaient de subventions gouvernementales. Les compagnies Sima Plus et Amel Construction ont été retenues pour les agrandissements du port de Bécancour. La nouvelle a été annoncée en conférence de presse mercredi. Notons que la première compagnie se spécialise en ingénierie et elle est basée à Bécancour. L'associé et directeur principal chez Sima Plus, François Paradis, a exprimé sa fierté de participer à un tel projet.
Ce projet-là, c'est un projet d'envergure qui est très intéressant. On parle de 300 millions, c'est une infrastructure majeure à construire pour nous autres. Ça amène de l'ouvrage pour tous les secteurs de l'entreprise. Puis en ce mode de réalisation-là, c'est le premier au Québec qui est en cours. Fait que pour nous autres, c'est super intéressant. C'est quelque chose qu'on veut développer. On a une culture de partenariat, de travailler vraiment en collaboration. Fait que c'est vraiment un mode dans lequel on veut embarquer. Puis on est bien content d'avoir été sélectionné pour ça.
On rappelle que les investissements annoncés à la fin de 2024 sont de l'ordre de 328 millions, dont 300 millions sont réservés aux travaux. Il y aura notamment la construction d'un nouveau quai, le B6. Les quais B1 et B2 seront également prolongés d'environ 40 mètres. Le projet va s'échelonner jusqu'en 2029. Le président directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Donald Olivier, a expliqué les avantages du projet qui est réalisé en mode collaboratif.
Traditionnellement, les entrepreneurs sont impliqués à la fin. Donc, tout est décidé, puis tout est canné, les méthodes, les permis sont délivrés. Alors que là, on a tout le monde au jour 1. On a tout le monde au jour 1 autour de la table pour qu'on s'assure que toutes les pistes d'optimisation qui, en mode traditionnel, arrivent malheureusement souvent trop tard, là, ils arrivent au jour 1. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à concevoir un projet. Donc, on parle plus de plus bas prix, plus bas subventionnaire conforme. Nous, on parle de meilleure valeur pour la société.
Soulignons que l'ASPIB, avec le projet Horizon Bécancourt, devient l'un des premiers organismes publics québécois à recourir à un projet en réalisation de projets intégrés. Lundi dernier, la ville de Bécancourt a annoncé l'ouverture complète de l'aréna Roland-Rault, qui était fermée depuis le début du temps des fêtes. Cette fermeture avait été provoquée par un important bris mécanique du système de réfrigération. Lors de la séance du 12 janvier, la ville avait confirmé l'achat de 2 compresseurs, dont la facture s'était élevée à 46 000 $. Par communiqué, la ville a fait savoir que les travaux ont ainsi récemment été réalisés en bonne et due forme pour assurer une réouverture sécuritaire et conforme. Les associations et groupes utilisateurs de l'aréna ont pu y accéder au cours des derniers jours. La ville de Nicolet pourrait se tourner vers les tribunaux si le dossier de l'ancien palais de justice ne progresse pas. C'est ce qu'a reconnu Geneviève Dubois alors que l'idée d'expropriation avait été lancée en septembre dernier. La ville souhaite que le propriétaire s'occupe davantage de la bâtisse qui est à l'abandon et qu'il a laissé à l'abandon depuis trop longtemps.
On veut s'assurer que ce bâtiment-là est pris en charge et on fait ce qu'il faut pour l'entretenir parce qu'on ne veut pas qu'il se dégrade. Et l'idée d'exproprier est toujours présente si jamais le propriétaire ne fait pas ce qu'il doit faire pour protéger son bâtiment, mais c'est pas la seule option. On pourrait aussi utiliser la cour supérieure pour le forcer à faire des travaux d'urgence sur ce bâtiment-là. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous.
La mairesse a mentionné qu'il y aurait des idées intéressantes à développer avec les installations.
Nous, ce qu'on veut, là, c'est que ce bâtiment-là soit utilisé à des fins, que ce soit du logement, que ce soit pour la communauté, mais on veut qu'il se passe quelque chose dans ce bâtiment-là.
Geneviève Dubois a ajouté que pour le moment, la Ville ne s'était pas encore donné une date limite pour se tourner vers les tribunaux. Dans un des rares cas au Québec, un sexagénaire de la municipalité de Saint-Célestin a réussi à voir une décision de la CNESST être renversée afin de confirmer qu'il souffrait d'une maladie professionnelle. Le 9 janvier, le tribunal administratif du travail a infirmé la décision de la CNESST qui datait d'août 2024. Dans la décision qui a été rendue, dont VIA a obtenu copie, on peut y lire que Jean-Marc Leclerc a droit aux prestations prévues par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en lien avec ses problèmes auditifs. Joint par téléphone, M. Leclerc a mentionné qu'il était heureux d'avoir été jusqu'au bout des procédures judiciaires. Actuellement, il travaille comme inspecteur municipal et son travail a aussi causé ses troubles auditifs. Et en terminant, le manque d'eau à plusieurs endroits dans la municipalité a causé des maux de tête aux agriculteurs de Saint-Célestin. Dans les derniers jours, la mairesse Sandra Saint-Amour a mentionné que ce n'était pas rare que cette situation se produise pour quelque 200 maisons. La situation devenait de plus en plus onéreuse pour les agriculteurs qui cherchent de l'eau.
Les agriculteurs ont besoin de beaucoup plus d'eau et des fois, ça mène à des coûts astronomiques en termes de recherche, de creuser des puits. Et j'ai des citoyens qui ont un carré de maison que là, beaucoup moins de possibilités de faire un puits. C'est plus difficile.
L'une des possibilités, selon la mairesse, pourrait être de faire passer l'aqueduc dans les rangs sur une distance d'environ 40 km. On rappelle qu'au début du mois, la municipalité a adopté une résolution pour un contrat d'études hydrologiques sur son territoire. Alors voilà ce qui complète notre résumé. J'espère que ça vous a plu. Merci de nous suivre. Et en tout temps, ben, vous pouvez avoir plus de détails sur ces différentes nouvelles en allant sur notre site web, levia.fr.